Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici donc mon exposé, cette fois-ci qui sera consacré à Saint Paul. Je propose de passer quelques minutes en compagnie de Saint Paul. Alors, au passage, je tiens à affirmer que je ne suis pas un théologien. Je ne suis qu'un chrétien du rang, relisant avec attention et passion les cours que l'abbé Huvelin fit à Saint-Augustin à la fin du siècle avant-dernier, sur l'histoire de l'Église. Mon exposé n'a pas la prétention de résumer Saint Paul en un quart d'heure, mais seulement d'en retirer une ou deux paillettes, si possible, d'actualité. Saint Paul a joué un rôle essentiel dans les débuts du christianisme. Certains ont été jusqu'à affirmer qu'il était l'inventeur du christianisme. C'est évidemment faux. Pour ne prendre qu'un exemple, le dogme fondamental de l'Eucharistie, il affirme nettement dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23-25, « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur, la nuit même où il était livré, etc. etc. » Et dans le premier chapitre de la lettre aux Galates, « Il faut que vous le sachiez, l'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine, ce n'est pas un homme qui me l'a transmis ou enseigné, mon évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ. » Bon, dire que Saint Paul a inventé le christianisme est stupide. Saul, qui deviendra Paul, est né à Tarse, ville située aux confins du Liban et de l'actuelle Turquie. Une ville célèbre pour son ambiance intellectuelle et dissolue, comme on le disait à l'époque. Ça allait souvent ensemble. Il fut l'élève des rabbis les plus réputés, dont Rabbi Gamaliel, cité dans les Actes des Apôtres. Les rabbis étaient des maîtres très honorés. Saint Paul était également citoyen romain de naissance, ce qui n'avait rien d'évident au premier siècle. Il a combattu les chrétiens, comme il l'avoue au début de son épître aux Galates. « Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. » Il ajoute plus loin, « Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » N'en est-il pas de même pour chacun d'entre nous? Dans la même épître, il raconte le début de sa carrière, en particulier sa discussion animée avec saint Pierre. On ne saurait trop recommander cette lecture. Saint Paul a assisté au martyr de Saint-Étienne et l'a approuvé. À cette occasion, on remarque le Christ. Saint-Étienne dit « Je remarque le Christ siégeant à la droite du Père et au même niveau que le Père. » Dès lors, la persécution judaïque devint plus sévère. Au début, on accusait les chrétiens de contrevenir à la loi. Désormais, on va les accuser de corrompre le monothéisme. La persécution de la part des païens vint plus tard. Au début, les gouverneurs romains pensaient qu'il ne s'agissait que d'une querelle entre juifs. Comme le dit Suétone, ils discutaient au sujet d'un dénommé Crestus, que certains disaient mort et d'autres encore vivant. Cela changea brusquement lorsque les gouverneurs virent en Jésus un concurrent de l'empereur. Les chrétiens obéissaient à l'empereur, sauf si l'ordre était contraire à l'enseignement du Christ. César n'a jamais accepté l'adage « il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ». Que le dit César s'estime nommé par le ciel, comme le pensaient les empereurs romains, ou qu'il soit nommé par une assemblée plus ou moins fugace et arbitraire, comme c'est le cas de nos jours. César ne supporte pas que l'on refuse de brûler de l'encens aux idoles, que l'on juge comme intrinsèquement pervers l'avortement, l'euthanasie ou le mariage homosexuel. Saint Paul a accompagné plusieurs missions, lesquelles duraient plusieurs années. À Jérusalem, Corinthe, cité du commerce et de la prostitution, à Athènes, capitale intellectuelle où il convertit plusieurs philosophes dont Denis l'Aréopagite, et à Rome, à l'époque capitale du monde occidental. Parmi l'enseignement de ces épîtres qui portent en germe toute la doctrine catholique, je me propose de traiter de quatre questions en rapport plus ou moins étroit avec notre temps. Premièrement, le Concile de Jérusalem. Il me semble exagéré de dire que le premier Concile de Jérusalem a marqué une rupture avec le judaïsme. Je parlerai plutôt d'une décantation. L'essentiel de la loi est, selon le Christ lui-même, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Cela reste plus vrai que jamais avec le christianisme, mais dégagé, j'allais dire, du carcan de la loi. Relisons l'Épître aux Romains dans son chapitre 5. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. La loi était édictée pour nous montrer le péché. Mais maintenant, rachetés par le Christ, vous n'êtes plus sujets de la loi, mais sujets de la grâce de Dieu, serviteurs de Dieu. Autrement dit, le carcan de la loi, nécessaire dans un premier temps pour prendre conscience du péché, devint superflu lorsque le Fils de l'homme a dit qu'il fallait adorer en esprit et en vérité. La décantation était terminée. L'amour de Dieu sortait en quelque sorte de son emballage. Trois ou quatre siècles plus tard, saint Augustin pouvait prêcher « Aime et fais ce que tu voudras ». Aime Dieu et ton prochain, bien sûr. Deuxièmement, la viande consacrée aux idoles. Cette question fut à l'origine de débats passionnés. Si elle nous semble désuète d'un point de vue objectif, elle correspond à un problème toujours d'actualité. Peut-on légitimement tirer un profit honnête d'une organisation athée dont on connaît le néant, mais qui chope les âmes sensibles? Pour prendre un exemple anodin, dans quelle mesure est-il légitime d'accepter les cadeaux d'une fête laïque ou une soupe au potiron pour Halloween? Il est vrai que la question des idoles était nettement plus sérieuse. À l'époque, les sacrifices publics étaient fréquents et abondants. Ils comprenaient parfois des porcs. Une fois les prêtres servis, il y avait beaucoup de restes qui étaient distribués pour la plus grande joie des pauvres gens. On comprend sans peine que ces viandes étaient au nid des juifs puritains. Même s'il ne s'agissait pas d'animaux impurs, ils n'étaient pas sacrifiés selon les rites mosaïques. On comprend aussi qu'il était bien dur de se priver d'une telle ressource pour les nouveaux convertis. Quelle est la réponse de saint Paul dans le premier chapitre de sa lettre aux Corinthiens ? Allons-nous donc manger de cette viande offerte aux idoles ? Mais nous savons que les idoles ne sont rien du tout. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui, nous allons, et qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous existons. Maintenant, le monde n'a pas cette connaissance, et certains croient faire un geste d'idolâtrie en mangeant cette viande. Pour nous, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde que l'usage de nos droits ne soit une occasion de chute pour les faibles. Il faudrait lire tout ce chapitre 8. En résumé, la question de nourriture ne se pose pas. Il ne s'agit que d'une question de charité envers les faibles. Pour les chrétiens, il n'y a plus de tabou alimentaire. Notons bien la différence entre tabou alimentaire et pratique pénitentielle. Le maigre du vendredi et le jeûne du carême ne sont pas plus des tabous alimentaires que le ramadan pour les musulmans. Ce ne sont que des pratiques pénitentielles qui n'ont qu'un temps. Alors que l'alcool pour les musulmans, le porc pour les juifs et les musulmans sont des tabous valables en tout temps. Le christianisme n'a aucun tabou alimentaire, c'est peut-être la seule religion dans ce cas. Dieu est amour, cela n'a rien d'alimentaire, seul compte la charité, en particulier pour les plus faibles. Troisième question, l'homme et la femme. On dépeint souvent saint Paul comme un machiste, pour employer un terme moderne, en mettant en avant la formule « Femme, soyez soumise à votre mari » qu'on trouve dans les Colossiens, l'Épître aux Colossiens. Certes, notons que dans notre monde satanique dont la devise est « Ni Dieu ni maître », dans notre monde, être soumis est une humiliation. La devise de Satan est « Non serviable, je ne servirai pas ». Mais saint Luc a noté dans le chapitre 2 de son évangile que, après ses trois jours au temple, Jésus descendit avec ses parents pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Étant donné que, en bonne épouse juive, Marie était soumise à Joseph, on ne peut que constater que la soumission dans la Sainte Famille est en fonction inverse de la dignité, car malgré toute leur grandeur, Marie et Joseph étaient bien en dessous de Jésus, et que Joseph, patron de l'Église, était inférieur à Marie Immaculée. Les chrétiens ne sont pas des anarchistes. Être soumis n'est pas un péché, au contraire. La question des rapports entre hommes et femmes est longuement traitée dans la première épître aux Corinthiens. Citons quelques phrases. La femme n'existe pas sans l'homme, mais l'homme n'existe pas sans la femme. Femme, soyez soumise à votre mari, et vous, mari, aimez votre femme comme Jésus aima son Église pour laquelle il s'est sacrifié. C'est dans les Colossiens. Il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Ça, c'est dans les Galates. Si saint Paul les conseille le mariage, c'est que l'homme marié, comme l'épouse mariée, doivent consacrer du temps l'un à l'autre, tant qui est pris sur celui consacré à Dieu. De plus, saint Paul croyait que la fin des temps était imminente. Cela dit, 7e des Corinthiens, ceux qui ne peuvent se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler de désir. Ensuite, je continue, saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, le corps de la femme ne lui appartient plus, mais il appartient à son mari. De même, le corps du mari appartient à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sinon temporairement et en plein accord pour prendre le temps de prier et vous retrouver ensuite, autrement vous ne sauriez pas vous maîtriser. L'union de l'homme et de la femme ne sert pas uniquement à la génération. Enfin, en ce qui concerne le commerce avec les prostituées qui étaient légion, en particulier à Corinthe, et dont certaines séduisaient au service des dieux, certaines prostituées, saint Paul dit sans embâche dans l'Épître aux Corinthiens, « Vous êtes le corps du Christ ». Vous n'allez pas faire un avec en sorte, vous n'allez pas faire en sorte que le corps du Christ ne fasse qu'un avec celui d'une prostituée. Pour saint Paul, l'amour charnel est bien plus que le plaisir d'un contact d'épiderme, il est la fusion entre deux êtres aimés de Dieu. C'est autre chose qu'un film porno. 4e question, le travail. Dans l'Antiquité, le travail, en particulier le travail manuel, était très mal vu. C'est encore le cas dans l'Inde brahmanique, où il est réservé aux castes inférieures. La seule activité digne était l'otium, repos laissant le temps de philosopher. Les marchands le négligeaient, c'était le negotium, le négoce. On trouve un écho de cette mentalité dans certains dirigeants de notre éducation nationale, pour lesquels l'apprentissage aux travaux manuels est un pis-aller légèrement infamant. Ce n'est pas le cas de saint Paul. La deuxième lettre aux Thessaloniciens est très nette. « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, dit-il, après d'avoir fait remarquer qu'il n'avait jamais été à la charge de quiconque. Il était tisseur de toiles de tente. » Dans le chapitre 11 de la lettre aux Romains, il dit que l'autorité est au service de Dieu pour pouvoir pourvoir le bien. On serait souvent tenté de mettre cette phrase au conditionnel. Et ajoute « Vous devez payer vos impôts ». Et dans la lettre aux Éphésiens, « Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, accomplissant la volonté de Dieu de tout votre cœur. Et vous, maîtres, faites de même. » Tout ça, nous sommes loin de l'esprit de révolte qui est tellement prôné de nos jours. En ce qui concerne le rôle de chacun, il faut lire la lettre aux Corinthiens, notamment le chapitre 12. « À celui-ci est donnée la sagesse de Dieu, à un autre le don de la connaissance, à un autre reçoit le don de la foi, à un autre peut faire des miracles, etc. » C'est le même et unique esprit. Ajoutant peu après, le corps humain se compose de plusieurs membres. Le pied aura beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « Je ne suis pas l'œil », etc., etc. Tout le chapitre 12 qui se termine ainsi, « Vous êtes le corps du Christ », avant d'énumérer les différents rôles nécessaires. Notons en passant que Tite-Live avait rapporté des propos semblables dans la fable « Les membres et l'estomac ». Qu'il avait mis dans la bouche de Méninus Agrippa. Quoi qu'il en soit, ces propos sont à l'opposé de la soi-disant égalité des chances qui aurait fait de Mozart un bien piètre plombier. Terminons en conclusion par une remarque apparemment désabusée de saint Paul, qui montre que si en fin de compte c'est à l'amour de Dieu que nous serons jugés, nous serons toujours devant lui comme des enfants qui ont fait bien des bêtises. Le texte est dans l'Épître aux Romains, chapitres 7 et 8. Je suis un homme charnel vendu au péché. Je ne comprends pas ce que j'accomplis, car ce que je voudrais faire, ce n'est pas ce que je réalise, mais ce que je déteste. Ce n'est plus moi qui accomplis tout cela, mais le péché qui est en moi. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis à la fois, par ma raison, serviteur de Dieu et par ma nature, serviteur du péché. Mais il termine par cette phrase pleine d'espoir, « En me faisant passer sous sa loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est le en Jésus-Christ notre Seigneur. » La liberté, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'égalité consiste à faire fructifier ses talents, à faire fructifier les talents que Dieu vous a confiés. La fraternité est de se mettre au service les uns des autres. Nous ne sommes plus du tout en campagne électorale.